Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et oui, vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique, le magazine culturel qui passe du coq à l'âne en direct sur le 94 FM à Toulouse, ou en streaming, où vous voulez, si vous voulez, partout dans le monde. Nous sommes jeudi 17 octobre, en public et en direct, dans la cour d'honneur à l'Institut supérieur des arts de Toulouse, aux 12 acronymes 10 dates, pour une nouvelle émission spéciale qui clôture la semaine de l'étudiant, organisée chaque année par l'Université fédérale Toulouse Midi-Pyrénées, et qui s'est associée ce soir avec Wild Records et le collectif Fusil. Hugo, Nico, Théo m'accompagnent tout au long de l'émission. Hugo ?
Bonsoir.
François est à la réalisation technique avec Tulip, Thomas à la mise en onde, sans oublier Zach, notre expert des communautés en ligne. Un grand merci à vous. On est ensemble pendant une heure et demie dans Rien à voir quoique. Depuis le 18 septembre, plus de 120 événements ont rythmé les 13 villes universitaires de l'Académie grâce à la mobilisation des établissements de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées, des associations étudiantes et des étudiants eux-mêmes acteurs du festival pour la 14e édition de la Semaine de l'étudiant. Cette nouvelle édition s'achève donc ce soir dans la cour de l'ISDAT où nous nous trouvons pour une soirée dédiée à l'art et à la musique, mais pas que, avec une vente aux enchères de croûtes artistiques et non, elle est annulée, avec l'exposition Encore réelle, avec un point d'interrogation, avec une projection de courts-métrages déjantés et de publicité kitsch proposée par la Cinémathèque de Toulouse, avec un atelier de programmation électronique juste à côté de nous et des créations sonores présenté par la Compagnie du Code, et enfin, dès 20h, une série de concerts portés par Wild Records. Et pour parler de cette soirée, nous recevons Léo Le Serre de Wild et Nikita Suo du collectif Fusil sur notre plateau en direct. Bonsoir messieurs.
Bonsoir Anna.
Bonsoir.
Alors le Wild, c'est un nouveau label indépendant, plutôt tourné vers la musique électronique, de la techno, de la house, de l'électro-French touch. Wild, ce sont des artistes, c'est une famille. Wild n'a pas de limites culturelles ni de frontières artistiques. Wild, ce sont des découvertes, des concepts innovants, des expériences, beaucoup d'univers, une passion. En résumé, Wild, c'est de la bonne musique et des bonnes personnes. En anglais, ça sonne beaucoup mieux. Wild Records, good music and good people.
Exactement.
Et Wild, c'est Jules Ozuri qui n'est pas là parce qu'il déteste parler à la radio, et Léo Le Serre. Alors Léo, depuis votre festival électro qui a eu lieu en avril dernier à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques, on était là, fleuron du patrimoine toulousain, avec Fusil aussi d'ailleurs. Que s'est-il passé avec Wild Records? Est-ce que vous tournez plutôt vers l'événementiel, comme des événements comme ce soir et demain aussi?
Alors en ce moment, on s'est vraiment tourné vers l'événementiel. Donc ces derniers mois, on a des projets pour relancer un peu le label. Ça va arriver dans les prochains mois ou l'année prochaine. Et autrement, on a fait un événement, donc un open air pour marquer un peu la fin de l'été et la rentrée en fin août, ouais, le 31 août, avec une marque parisienne de streetwear, Tiller. Et ensuite, du coup, on a travaillé sur ce projet avec Fusil et la semaine de l'étudiant.
Les artistes que vous présentez ce soir, ils font partie du label?
Non. Non, ils sont pas signés sous le label. Par contre, on a déjà travaillé avec eux sur des événements antérieurs et on les connaît bien personnellement.
Qu'est-ce qui vous a fait choisir ces artistes-là?
Et alors la plupart parce que on a envie de mettre en avant la scène locale et les talents aussi le talent qu'on leur trouve, donc faire découvrir un peu ces artistes émergents au public.
Et vous avez aussi une soirée demain?
Ouais. Demain, c'est une soirée qui est exclusivement organisée par le collectif Fusil et nous-mêmes. Pour vraiment mettre en valeur...
Avec d'autres artistes.
Et là, on aura un invité un peu plus, on va dire, connu, qui s'appelle Mark Laird, qui vient du Royaume-Uni et qui fait de la house, pure house.
Nikita, vous êtes étudiant à l'ISDAT en troisième année. Est-ce exact?
Est-ce exact?
Est-ce vraiment exact?
C'est exact, exactement.
Option exact. Design. Mais ce soir, vous êtes plutôt, surtout, commissaire de l'exposition Encore réelle, ouais, avec l'association Fusil, ici au Palais des Arts, la salle de l'exposition de l'ISDAT, et dans le hall, oui, de la cafétéria, entre le noir et le blanc. Ouais. Alors, je voulais rappeler que l'ISDAT, c'est l'Institut supérieur des arts de Toulouse, qui est un établissement public d'enseignement supérieur dédié aux arts plastiques, au design graphique, à la musique et à la danse, qui ne s'appelle plus l'École des Beaux-Arts.
Oui, l'appellation a été virée au profit de l'ISDAT, qui est une unité avec 5 options dedans.
Et dirigée par Jérôme Delormaz depuis septembre 2018, qu'on salue, et il est situé sur les bords de la Garonne, dans un ancien bâtiment, très ancien, 1750, non, c'est ça ?
Je le confirme.
Peut-être. Alors, encore réel, point d'interrogation. Et ça oui. S'écrit encore en, plus loin corps, le corps, C-O-R-P-S, avec un point d'interrogation. La question est posée.
La question est posée. Qu'est-ce qui est encore réel actuellement, de nos jours, sans parler politique ni quoi que ce soit
on
mais...
On peut, Nikita.
Ouais, non, j'ai pas envie. À Toulouse, on a bien eu des emmerdements là avec... Macron, Merkel qui sont venus, qui ont tout bloqué. Enfin bref. Encore réel, c'était juste... on est quand même une association étudiante, du coup, pour pouvoir mettre à fusil. Du coup, pour pouvoir mettre ce genre de projet en place de cette envergure-là, on peut pas le faire tout seul. Il faut avoir le soutien de l'ISDAT, enfin de l'école. Et surtout des partenaires qui sont bah, comme vous, Campus FM. Et Wild et tous les autres que je remercie énormément de soutenir en fait ce genre d'initiative et en fait on est comme une espèce de d'intermédiaire là-dedans. Maintenant sur l'exposition encore réelle, bah c'est ça en fait. Est-ce que c'est encore réel de pouvoir en tant qu'étudiant de œuvrer activement, ne pas attendre de sortir de l'école et être diplômé pour pouvoir faire quelque chose, mais être à l'intérieur de son cursus, on va dire, scolaire, et de pouvoir faire quelque chose. Toutes les grands événements qui ont chamboulé un peu, perturbateurs, ont été à l'initiative, des étudiants. C'est un corps, c'est une génération. C'est, donc du coup, voilà, est-ce que c'est encore réel? Et la réponse, bah, moi, je dirais que oui, tu vois.
Super.
Voilà.
Et c'est pour ça que vous avez invité des diplômés et des non-diplômés. Alors, enfin, oui. Le diplôme, je dis pas on s'en fiche, mais c'est en formation, en cours de formation et une
ou
formation
c'est ça.
Terminée.
Pour cette exposition-là, du coup, on a invité 3 artistes et du coup, il y en a un autre qui s'est rajouté parce qu'ils sont en couple. Et du coup, Marie Glaise et Louis Clé.
Ils vont venir en plateau tout
oui,
à l'heure.
Voilà. Et du coup, le but c'était de prendre 3 artistes diplômés et 3 artistes en cours de formation pour leur permettre justement, ceux qui sont en cours de formation, de vivre l'expérience d'une exposition où on n'est pas parrainé par l'école pour l'exposition. Du coup, on a dû apprendre de nous-mêmes aussi, de faire face à plein de petits imprévus, etc., de gestion d'organisation, etc. Et puis finalement, bah, c'est apprendre, enfin c'est un peu l'école de la vie, on apprend en faisant. Et c'est exactement, en fait, c'est là où je remercie l'école pour nous avoir soutenus et autorisés à faire ça. Et j'espère qu'elle sera très contente.
Et vous avez installé des valises dans la rotonde à l'entrée de l'école pour inviter les visiteurs à laisser leur bagage culturel habituel.
Oui.
À l'entrée.
De ce qu'ils savent, de ce qu'ils savent de l'art contemporain, de l'image de l'art contemporain, c'est juste laisser ce valise là pour ne pas tomber non plus sur une observation très on va dire de connaisseurs ou quoi que ce soit, et ce n'est pas non plus de la scénographie simple, il y a à chaque fois un sujet qui est porté par une œuvre d'un artiste. Du coup, ouais, il faut laisser le bagage culturel pour pouvoir mieux se confronter vis-à-vis de des œuvres et c'est la deuxième fois du coup qu'on fait quelque chose avec Wild et on a expérimenté ça avec Léo Le Sarre et Jules Ozeric de confronter l'endroit et l'espace d'exposition en simultané avec de la musique.
C'est ça.
Et aussi dans un lieu patrimonial comme à l'Hôtel Dieu.
C'est ça, un lieu historique.
Nikita, vous avez aussi installé des lits prêtés par Emmaüs.
Oui.
Qui sont là devant la scène.
Mm-hmm. C'est juste pour pouvoir se poser. Et, j'espère que les gens ramèneront des coussins et des couettes parce que enfin il y a pas de position pour écouter de la musique ou pour je sais pas. C'était juste une pointe de scénographie. Ça c'était juste le collectif Fusil qui a décidé de faire ainsi.
Au départ, Fusil c'est aussi une plateforme.
Alors ça. Ça le sera, je l'espère, parce que du coup, justement, on cherche des financements, parce qu'il faut créer, mettre en plate, enfin, en ligne, on va dire, et la conception de ce site internet, de cette plateforme là. Et du coup, bah là, c'est vrai qu'on est un peu sorti de notre objectif premier en faisant justement de pas de l'événementiel, mais de l'exposition. Et on s'est consacré sur l'exposition là, parce que notre plateforme veut justement rassembler tous les différents partenaires pour qu'ils ils cohabitent au sein d'un même espace-temps, ce qui se passe ici finalement. Et du coup, cette plateforme internet permettrait d'accélérer et de faciliter des choses. Je ne veux pas parler de l'accélération, mais de faciliter la conversation entre les différents partenaires, et etc.
Fusi, ce sont des étudiants, mais pas que des étudiants de l'ISDAT.
Non, je suis le seul étudiant de l'ISDAT dans Fusi. Et il y a trois personnes qui m'accompagnent en permanence et à qui je dois beaucoup. Moun Karat, Héloïse Guéguen et Nina Lewis, qui sont de Sciences Po Toulouse. Voilà.
Comment vous êtes rencontrés, Wild et Fusi?
Ouf.
Je veux pas le savoir.
Voilà. C'est une très longue histoire.
Alors, c'était chez Léo, on était bourrés. Il avait non, un
souvent,
truc.
C'était pas mal. Ouais, souvent, on fait des trucs chouettes. Comme
non,
ça.
On s'était rencontrés parce que justement, pour le truc Wild de
l'Hôtel Dieu.
De l'Hôtel Dieu.
C'était en avril dernier, il y a
oui,
pas si longtemps.
Ouais. Ouais, non, la rencontre, elle
on s'est rencontrés
récente,
par Mehdi. Par Mehdi, qui est notamment notre graphiste attitré du label. Et voilà. Je t'ai même rencontré avant à une soirée chez lui il y a très longtemps, mais tu t'en souviens pas.
Non, je m'en souviens pas.
Et vous avez décidé de faire des événements ensemble.
Voilà.
Ouais, comme ça.
Ouais, tiens, je t'aime. Non, tout est parti de la partie exposition. On avait besoin de enfin, on voulait mettre en place des expositions. Une partie plastique et performance, enfin on savait pas trop. Et Nikita, il s'est un peu imposé comme quelqu'un qui avait la culture et le savoir nécessaire pour la mise en place de ces expositions, selon moi. Et j'en ai parlé avec Jules et on s'est dit que ce serait bien de déléguer cette partie exposition et de trouver quelqu'un qui avait envie de s'en occuper. Et
c'était juste de l'organisation. Enfin, il fallait
il
faut vraiment de l'organisation parce que
il y a du choix, il y a le choix des artistes,
il y a le choix certes, mais c'est dur de prendre des artistes et de leur dire comme tout le temps vous êtes exposés gratuitement. En fait, il faut leur donner une bonne situation aussi. Donc défraiement
Bière gratuite.
Non, mais des bonnes conditions en fait d'exposition pour que en fait c'est un métier que d'être artiste, c'est un métier comme artiste musicien, comme cinéaste, etc. Donc du coup, pour ça, il fallait un intermédiaire pour pouvoir réunir en fait et faire une bonne mise en espace. C'est comme ça qu'on s'était découvert un peu à l'Hôtel Dieu Saint-Jacques avec Wally.
L'idée de la Cinémathèque, là, des projections.
C'était pour diversifier parce que un jour j'étais je gambadais au centre Pompidou et puis il y a eu radio projection. En fait, il y avait un truc très un rendez-vous culturel où il y avait énormément d'activités qui permettaient en fait de remplir une soirée. Et ce remplissage de soirée, ça permettait de faire des connexions, des assemblages entre les différentes choses vues, entendues ou touchées, j'en sais rien, qui a fait que cet événement-là que j'ai vu au centre Pompidou m'a beaucoup marqué. Je voulais un peu répéter la même chose et un petit copier-coller. Et puis voilà.
Avec la compagnie du code.
Il y a la compagnie du code.
Alors je rappelle que l'exposition Encore Elle est ouverte au public hein, du mardi au vendredi de 12h à 19h jusqu'au 24 octobre à l'ISDAT. Merci beaucoup Léo Le Serre, merci Nikita Sio.
Merci à
vous.
On
écoute un son de Bol qui joue ce soir à 20h,
c'est le premier.
Le son s'appelle Fuji Speedway GT 2000.
Der Chilanus verdeutlicht. We'll be right back.
Sur Campus FM, on écoutait Fuji Speedway GT 2000 par Bol, qui va nous rejoindre tout à l'heure en plateau et qui joue ce soir à 20h pour cette soirée de clôture de la semaine de l'étudiant. Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Nous sommes toujours en public et en direct dans la cour de l'ISDAT pour clôturer la semaine de l'étudiant. Deux artistes en cours de formation se sont installés en plateau avec nous pour parler de leur travail pour l'exposition collective, encore réelle, proposée par le collectif Fusil. Hugo, c'est à toi.
Oui, bonsoir Anna, bonsoir à tous. Nous accueillons donc Alice Simionovici et Jérémy Topal, qui sont tous les deux en cinquième année de formation donc à l'ISDAT avec un grand T. Donc bonsoir à tous les deux.
Bonsoir.
Salut.
Alors vous avez été donc dans le cadre de cette semaine de clôture donc de la semaine de l'étudiant, vous avez été convoqué en quelque sorte donc par Nikita Suo pour présenter donc des œuvres en cours de création dans votre parcours universitaire ici à l'ISDAT. Alors tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu comment la connexion avec le collectif Fusil et vous s'est faite pour participer à cette exposition?
Les dames d'abord.
Ok, moi je connaissais Nikita parce que on s'était croisés plusieurs fois à l'école. Et j'aime bien travailler dans la salle numérique et la salle 106 de l'école. Et je me posais là avec mon ordinateur et du coup il a vu ce que j'étais en train de faire et il m'a proposé de participer du coup.
Alors la thématique de l'exposition, c'est encore réel. Alors le travail que tu présentes, c'est donc des projections dynamiques. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton travail en rapport avec la thématique de l'exposition imaginée par Nikita?
La plupart des questions que je me pose, c'est l'impact en fait du numérique sur notre vie, sur les relations qu'on a entre nous et sur notre rapport au monde. En fait, j'aime bien explorer cette pensée-là. Et du coup, encore réel, ça correspondait.
Et alors, nous, tout à l'heure, on a voulu faire un petit peu le tour des expositions, voir un petit peu ton travail pour te demander un petit peu plus. Mais justement, Jérémy Topal avait construit un mur entre tes œuvres et le public, un mur qui tombera peut-être au cours de la soirée. Mais justement, est-ce que tu peux nous dévoiler un petit peu ce qu'on n'a pas pu justement voir derrière ce mur?
Pour décrire un peu, il y a quatre portraits qui sont des vidéos. C'est des artistes connus, enfin des acteurs connus. Il y a notamment Ryan Gosling, Emma Watson, Scarlett Johansson et Keanu Reeves, qui sont à partir d'une photo, je leur ai permis de reprendre une mobilité et de leur faire parler à ma place, les faire parler à ma place. Et la dernière chose que je présente, c'est une espèce de fausse cascade numérique. Tout est digital.
Alors l'ISDAT, c'est cinq domaines enseignés à l'ISDAT. Toi, tu es en cinquième année. Justement, comme vous êtes donc encore en formation ici à l'école, au fur et à mesure de ces cinq années, vers quoi ta création s'est orientée? Tu parlais tout à l'heure d'art numérique. Est-ce que c'est ici que tu as approfondi cette volonté d'aller vers justement le numérique ou l'informatique?
Moi, je me suis orientée naturellement vers le numérique parce qu'au final, c'est les questions qui m'intéressaient le plus. Après, l'école, elle n'a pas forcément, m'a pas vraiment poussé dans cette direction. Et d'ailleurs, ça m'a un peu attristée parce qu'il y a des ateliers extraordinaires de matières, le plâtre, le métal et le bois, mais j'ai toujours préféré travailler le son, la vidéo et la photo et des trucs un peu, des logiciels un peu spéciaux, de 3D. Mais du coup, j'apprends de manière autonome parce qu'il n'y a pas beaucoup de profs sur ces matériaux-là.
Donc en fait, vous avez donc au sein de l'école, vous avez du matériel à disposition. Et après, c'est à vous d'aller chercher un petit peu les outils dont vous avez besoin dans votre processus de création.
Je pense que chaque personne a son truc. Enfin, je veux dire, ça dépend complètement. Moi, typiquement, parce que le numérique, on n'a pas encore trop de profs à ce sujet. Je pense que j'ai dû apprendre seul. Mais par exemple, en plâtre, il y a des personnes extraordinaires qui peuvent nous aider dans l'école.
Donc, le versant numérique de l'école, c'est un peu plus pour les touches à tout, en fait. Alors.
Oui. Ouais, on a quand même un atelier maintenant. L'atelier Machina, c'est ça ?
Oui, mais c'est pas forcément numérique. Ça touche tout ce qui est électronique, voilà.
Ça fait longtemps.
Moi, je suis pas trop allé. On fréquente pas forcément tous les ateliers.
C'est la deuxième année.
Ça dépend aussi de notre travail plastique. Qu'est-ce qu'on va utiliser
En termes d'exposition, en tant qu'étudiant ici à l'ISDAT, vous avez été amené à participer à des projets collectifs avec les étudiants. Là, vous sortez du cadre de l'école et vous exposez à proprement parler vos premières œuvres, en quelque sorte.
Ouais. Alors, moi, j'avais déjà participé à une exposition collective avec deux autres écoles d'art. Donc, en fait, c'était Aix et l'école d'art de Montpellier. Et en fait, on avait fait une exposition collective à distance. Et en fait, les trois lieux étaient reliés par des webcams.
Donc, c'était l'exposition Stargate.
Oui, c'est ça, c'est exact. C'est exact, ouais, c'est ça.
Alors, et toi, Alice
Moi, justement, ma toute première fois, c'était la semaine dernière à l'ESSAV de Toulouse, où j'ai exposé une autre projection qui ne sera pas là ce soir.
C'est quoi, c'est cinéma? Ouais.
Alors, Jérémy Topal, comme je le disais tout à l'heure, aujourd'hui, tu as construit un mur et c'est toi qui inaugureras donc l'exposition qui commencera donc à 20h. Hein, le vernissage aura lieu ce soir à 20h. L'inauguration se fera à coup de hache dans une forme de performance. Mais avant de rentrer dans l'école des Beaux-Arts, tu avais été donc gagnant d'un concours d'art en réalisant une bande dessinée qui s'intitulait « Les autres et moi ». Qui mettait en scène un petit singe en manque de confiance en lui, qui cherchait à se faire des amis, c'est
oui,
ça?
Oui, alors à ce propos, l'article est un peu erroné. L'histoire, c'était pas vraiment ça. C'était plus le fait que dans ce monde, on n'est pas tout seul. Et en fait, ce personnage, en fait, qui était le personnage principal de la bande dessinée, était confronté aux autres malgré lui. C'était quelqu'un d'introverti qui restait dans son coin. Et au final, il était obligé de sortir de sa bulle parce que justement, il n'est pas tout seul dans ce monde. Et donc ça, c'était j'étais au lycée à ce moment-là. C'était un concours d'art au sein du lycée. Et en fait, finalement, ce questionnement que j'avais eu au lycée ressort aujourd'hui dans mon travail plastique.
Et justement, qu'est-ce qui s'est passé entre ce premier concours gagné donc en terminale L jusqu'à 5 ans maintenant, après 5 ans d'études ici à l'ISDAT, et ce mur qui va être brisé tout à l'heure. Comment a évolué ton processus artistique?
Du coup, de ce questionnement sur le rapport à l'autre, j'ai été amené à questionner la violence, donc qui est aussi une notion qui définit nos rapports sociaux. Donc, elle se retrouve partout dans le monde. Elle est très médiatisée, et en fait, ce mur incarne une sorte de violence qui sépare les autres. Et donc après, je vous laisse deviner la suite avec la hache.
Alors justement, ce mur cache les œuvres d'Alice Simionovici, donc qui sont des œuvres numériques et donc où l'artiste n'intervient pas en vivant. Par contre, toi, tu as intégré donc une forme de performance. Est-ce que c'est quelque chose qui revient régulièrement dans ton travail, de te mettre en scène en même temps que l'œuvre?
Oui, alors là, ça va vraiment être la première fois que je vais performer devant un public. D'habitude, je fais mes expérimentations dans mon coin. Et toujours le même processus de questionnement de la violence. J'ai fait une performance avec un fouet, donc le fouet qui est quand même un objet très chargé d'histoire, notamment au niveau de l'esclavage. Et donc
c'est la dernière année pour vous ici à l'ISDAT. Est-ce que déjà il y a un avenir dans votre travail personnel qui se profile, Alice Simionovici? Est-ce que déjà tu perçois déjà l'après ISDAT?
Moi, pour être honnête, maintenant je conceptualise mon existence dans le présent uniquement, alors je ne vais pas répondre à cette question.
Et non, dans ton travail, est-ce qu'il y a quand même des choses qui te paraissent plus claires, en tout cas, dans ta démarche artistique, après ces 5 années d'études?
Bah, c'est vrai que je peux dire que j'ai des goûts que j'ai envie de continuer pour l'instant. Donc le 3D, j'adore, mais je suis un peu touche à tout et je vais pas me limiter. Et j'aimerais bien me plonger plus dans le son maintenant. Voilà.
Dans la création musicale ou création sonore ?
Plus musicale pour un temps là.
Très bien. Jérémy ?
Quant à moi, voilà, c'est assez connu dans le monde de l'art. Une fois diplômé, c'est assez dur en fait de percer. Pour l'instant, j'envisage peut-être de faire prof d'art plastique, histoire de pouvoir financer moi-même mes projets. En fait, voilà, gagner en indépendance en fait pour pouvoir produire plastiquement.
Mais merci à tous les deux, Alice Simionovici et Jérémy Topal. Donc je rappelle, vous êtes étudiant en cinquième année à l'ISDAT. C'est la dernière année avant le diplôme. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Et donc
merci.
On invite nos auditeurs à venir découvrir donc vos œuvres qui seront présentées donc ici à l'ISDAT à Toulouse. Et l'exposition tiendra lieu encore une semaine, donc vous pouvez venir pour la découvrir.
Hugo, je propose comme Nestor nous a rejoint là, au plein milieu de son exposition.
Ah oui, tout à fait. Bonsoir Nestor Jolan, qui devait faire partie des trois intervenants qui nous rejoignent donc en fin d'interview. Donc bonsoir.
Bonsoir.
Alors toi aussi tu fais partie donc des étudiants encore en formation. Alors toi tu n'es pas en formation à l'ISDAT, tu es en formation aux Beaux-Arts de Marseille, mais tu as aussi été convié donc par le collectif Fusil et donc par Nikita Suo pour présenter pour investir l'ISDAT ici à Toulouse. Alors toi tu as travaillé sur deux espaces comme un passage à l'entrée donc du palais de l'ISDAT.
Des arts.
Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu ces deux espaces que tu as dû investir?
Alors en fait moi j'ai bossé sur une sorte de scène d'un conflit somme toute intime et qui parle un peu de qui se rapprocherait en fait de la thématique du fait divers sans en être un, mais sur la recherche et le développement en fait et la construction, c'est assez tiré de ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a comme ça dans les crimes en fait, ça singularise en fait les espaces. On s'en rend assez compte et ça donne une trame singulière de temps et d'espace, une sorte d'aura en fait dans un lieu. Et ce qui était important pour moi, c'était de contrôler en fait tous les artifices dans ces espaces-là, à la recherche en quelque sorte de l'autre face du banal en fait, donc qui serait l'inouï, c'est-à-dire qu'en fait les pires horreurs, on va pas se mentir, elles se produisent toujours sur fond de banalité. Et l'intérêt, c'était pour moi de montrer une scène de crime gore ou tape à l'œil, en fait c'était plutôt montrer une forme de réalité dans tout ça, malgré le fait que je suis conscient que les gens qui observent, ce qu'ils cherchent avant tout en fait, c'est s'émouvoir.
Alors justement, on a pu un peu découvrir un peu les espaces que tu étais en train de monter. Donc tu travailles avec différentes matières. Donc pour isoler lieu, tu as travaillé avec des bâches blanches en plastique. Tu travailles aussi avec le son, avec des effets spéciaux. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu ça de ce processus, un peu de mise en forme de ton œuvre au sein de l'espace?
En fait, pour moi, c'était le garder le contrôle sur tout ça en fait. Donc j'ai fermé des espaces de confinement, un peu comme je sais pas, quand on confine un espace pour du désamiantage. Et c'était l'idée de complexifier aussi la compréhension et de pas délivrer comme ça la scène nue quoi en fait, et d'avoir le contrôle sur les effets dont j'ai envie, les matériaux que j'ai utilisés, et d'avoir un passage en fait, créer une ouverture et un passage.
Et la deuxième salle que tu as mise en scène en quelque sorte, c'est aussi sur cette thématique.
Ouais, en fait c'est la suite en fait. C'est en deux parties. La scène, elle se passe en deux étapes, et c'est ces deux étapes de ce processus-là, en fait, de, du conflit.
Et tu serviras, et au, tout, tout au cours de l'exposition, tu serviras de guide aux gens qui viendront découvrir, parce que c'est dans un espèce de passage, c'est deux lieux, un lieu ouvert et un lieu fermé. Il faut rentrer dans l'un des lieux pour découvrir la première œuvre. Est-ce que tu serviras de passage, justement?
Je pense pas. Je vais laisser les gens se saisir du contexte, en fait.
Eh ben, on invite justement les auditeurs donc à venir découvrir donc vos trois œuvres, Alice Simionovici, Jérémy Topal et Nestor Jolan, donc qui sont trois étudiants en formation, deux donc en cinquième année à l'ISDAT, et Nestor Jolan qui est étudiant aux Beaux-Arts de Marseille. Merci à tous les trois d'avoir été avec nous sur le plateau.
Ben, merci
donc,
à vous.
Maintenant rendez-vous aux auditeurs ici à l'ISDAT.
Merci. On écoute un son de Max Temron, le son s'appelle Lotus. En exclusivité sur Campus FM, on vient d'écouter Lotus par Max Temron, qui va nous rejoindre tout à l'heure en plateau et qui joue ce soir, après bol, lors de cette soirée de clôture de la semaine de l'étudiant à l'ISDAT.
Mieux vaut penser à rien qu'une pas pensée du tout.
Vous êtes bien sur Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique.
Rien,
nous sommes toujours en public et en direct dans la cour de l'ISDAT pour clôturer donc cette semaine de l'étudiant. Quatre artistes diplômés se sont installés en plateau avec nous. Ils ont eux aussi participé à l'exposition Encore réel. Hugo.
Oui, tout à fait. Alors tout à l'heure, nous étions avec donc trois étudiants encore en formation. C'est comme ça qu'on a décidé donc d'organiser cette interview. Maintenant, donc c'est trois artistes qui sont donc sortis de formation. Donc il s'agit d'Antoine Jossé, de Marie Clès et de Louis Clay. Marie Glaise et Louis Clès, pardon. Donc un duo et un artiste en solo. Donc pour vous, pour rappeler un petit peu vos parcours, Marie Glaise est diplômée de l'École des Beaux-Arts de Paris ainsi que de l'École supérieure des Beaux-Arts de Montpellier. Louis Clès est diplômé de l'École nationale supérieure de Paris-Cergy. Et Antoine Jousset est diplômé de la Haute École des Arts du Rhin. Donc tous les trois, vous ne venez pas de Toulouse. C'était le désir aussi de Nikita Suo de rassembler des artistes de toute la France, des quatre coins de la France, comme il le dit lui-même. Tous les trois, alors c'est un hasard que vous retrouvez sur ce plateau, mais vous avez quelque chose en commun, c'est le jeu. Vous avez tous les trois travaillé autour du jeu, alors sous des formes différentes. Tout d'abord, Antoine Jousset, bonsoir.
Bonsoir.
Donc toi, ce que tu présentes dans le cadre de cette exposition, Encore réel, c'est un jeu vidéo. Tu travailles beaucoup autour de l'esthétique des jeux vidéo, un peu à l'ancienne quand même.
Ouais, c'est ça. Ouais.
Est-ce que c'est du lo-fi, du lo-fi ou du comment? Je ne sais pas quel est le terme qu'on utilise.
Je ne sais pas quel terme on utilise, mais non. Enfin, à la base, ça vient aussi du fait d'essayer de bosser sur des jeux qui sont diffusable sur toutes les plateformes et donc qui prennent pas trop de place et avec le moins de polygones possible. Enfin, en 3D on parle de polygones, et pour que n'importe qui avec même un ordi tout pourri puisse y jouer en fait. Et du coup bah ça ressemble un peu forcément à, enfin ça fait à l'ancienne quoi. Voilà.
Alors ce que tu présentes là ce soir, ce sont des histoires interactives d'amour animé. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus?
Bah du coup il y a deux jeux, mais il y en a un surtout qui s'appelle Intense, qui est un jeu en fait où on peut que aller sur la droite. Enfin, on incarne une mère et sa fille qui se rendent à l'intense hôtel pour aller retrouver le nouvel amoureux de la mère du coup, qui s'appelle Jérémy. Et en fait, on fait juste un petit parcours comme ça de la mère avec sa fille qui parcourt un monde un peu désespéré, assez étrange, vers le nouvel amoureux. Et en fait, c'était à la base, je l'avais fait pour un concours de jeux vidéo qui devait être réalisé en une semaine. Donc le jeu a été fait en une semaine. Mais après, j'ai mis 3 mois, je pense, à finir la musique, débugger, tout. Enfin, ça, c'était vraiment, c'est un peu la galère, quoi. Mais une semaine pour le faire vraiment. Et en fait, c'était un peu un hommage aussi à une personne qui est décédée au moment où j'étais en train de programmer le jeu. Et je voulais faire ça pour cette personne, quoi.
C'est la première fois que le jeu sera présenté au public?
Non, je l'ai déjà exposé dans 2 ou 3 petites expos un peu comme ça, des expos d'étudiants comme ça, ouais.
Alors Marie Glaise et Louis Glaise, vous travaillez vous aujourd'hui en duo. Alors vous êtes tous les deux artistes, vous avez chacun donc vos parcours professionnels distincts, mais artistiques distincts, mais il vous arrive aussi de travailler ensemble. Alors ce soir justement, c'était à l'origine donc Marie Glaise qui était conviée à exposer. Louis Glaise s'est joint sur une des 2 œuvres que vous présentez. Donc Marie Glaise, justement, vous travaillez beaucoup sur le relationnel, sur les relations humaines. Et là, le jeu sert justement de vecteur à la relation. Alors, est-ce que justement, vous pouvez nous présenter un petit peu cette table de jeu que vous avez exposée ici?
Alors, la table de jeu, c'est l'œuvre qu'on présente à deux avec Louis. Et donc, c'est une table qui est entourée de 6 chaises et sur laquelle se trouve une pile de feuilles. Et donc les gens sont invités à prendre place autour de cette table pour s'emparer d'une des feuilles qui est la règle du jeu qu'on propose de jouer ce soir. Mais les feuilles peuvent aussi se dissiper dans toute l'école. Et en fait, l'idée, c'est aussi que la règle du jeu soit connue et donne envie aux gens d'y jouer.
Alors tout à l'heure, en allant visiter le lieu d'exposition, donc le Palais des Arts ici à Lisdat, j'ai pris une de ces règles du jeu. Je peux la lire.
Oui.
Y a pas de.
Justement, avec lui, on avait envie de la lire pour que les auditeurs puissent aussi jouer chez eux.
Eh ben, je peux vous laisser lire. Donc vous présenter une de ces règles du jeu.
Alors je la lis. Le jeu des échanges. Pour 4 à 8 joueurs bien disposés, ayant un objet ou un service à échanger. Le jeu peut avoir lieu n'importe où ou de façon improvisée ou organisée. L'objectif, faire des échanges gagnant-gagnant. Chaque joueur présente brièvement ce qu'il a échangé, puis les négociations commencent. Les joueurs ne sont pas limités à un échange. Une même chose peut être échangée plusieurs fois au cours de la partie. Possibilité, rajouter, customiser, fabriquer, s'associer. Si un joueur ne souhaite plus faire d'échange, il se retire de la partie. Le jeu s'achève quand il ne reste plus qu'une personne.
Alors, ces règles du jeu, qui c'est qui les a imaginées? Est-ce que ce processus sur le travail du jeu, est-ce que c'est plus Louis Glaise ou est-ce que c'est plus Marie Glaise qui a élaboré ces règles?
Autant que gagnant-gagnant, c'était 50-50, j'ai l'impression. C'était au Dour du Fan-Mer avec des amis lors d'une résidence. On mangeait des huîtres et buvait du vin blanc dans la coquille d'huître et on avait envie de s'amuser, on a joué à ça. C'était un super moment improvisé. Et ensemble, on a voulu toucher les règles sur le papier pour permettre au plus de nombre de personnes possible de jouer.
Ou alors au moins de pouvoir réorganiser cette situation dans d'autres contextes, parce que en fait, quand on l'a expérimenté un peu spontanément la première fois, on s'est rendu compte qu'on était un groupe de personnes qui se connaissaient pas encore très bien. Et en fait, de se livrer à cette expérience, ça a pu un peu nous débarrasser d'une timidité et en fait se raconter plein de trucs. Et c'était un moment très drôle et très vivant. Et cet aspect vivant, c'est quelque chose qui est pour nous très important dans l'art, en fait.
Alors, pour transmettre ce côté vivant, pour donner lieu à l'échange ou à la relation, justement, qui est un peu le but recherché par cette œuvre, est-ce que vous allez rester ici pour essayer d'initier un peu les joueurs, ou est-ce que vous allez juste laisser la table avec ses règles du jeu sur la table en attendant que les gens s'en saisissent? Est-ce qu'il y a besoin de l'animer, de le lancer? Ou est-ce que vous voulez laisser le public libre de s'en emparer?
On avait envie de mettre Nikita dans l'affaire, donc qui nous a invités à participer à l'exposition, parce qu'on se disait qu'il fallait peut-être qu'il y ait un mouvement qui impulse ce jeu, mais on n'avait peut-être pas envie de s'y coller pour entamer, parce qu'on voulait pas que ça soit une mise en scène des artistes qui se prêtent à leur propre jeu, et on voulait pas non plus que les gens se disent en nous voyant « Ah, c'est comme ça qu'on doit jouer, donc on doit se parler de telle manière » et que du coup ça bloque un peu les possibilités.
Alors en faisant le tour de cette œuvre, hein, on parlera de la deuxième qui est donc celle de qui est seulement celle de Marie Glaise. Je retrouvais un petit peu donc outre le jeu qui serait plus la partie liée aux relations que vous développez Marie Glaise, il y a dans l'esthétique une feuille blanche avec des phrases écrites sur un papier blanc en noir avec une typo simple. Avec ce mobilier simple aussi, on retrouvait un peu ton travail, votre travail, Pierre Clès, autour justement qui revient souvent de phrases écrites noires sur blanches. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce travail?
Vous faites référence à un travail où j'ai créé des tables et des chaises sur lesquelles j'ai fait un motif recouvert d'un millier de questions différentes, certaines très absurdes, d'autres plus concrètes, avec qui danser, comment prendre un bain.
Connaissez-vous quelqu'un qui vit
au 66 de la rue du Paradis, ou des questions comme ça sur une table, de manière aussi à que le public dans la salle d'exposition ou ailleurs s'installe et puis discute. Donc je fais quelque chose de très simple, écrire en noir sur du blanc pour ensuite créer des situations qui me dépassent.
Et donc la deuxième œuvre exposée, donc Marie Glaise, elle concerne aussi le jeu, mais là c'est pas un jeu auquel on peut jouer.
On peut y jouer parce que c'est un jeu de 54 cartes classiques avec deux jokers. Donc en principe, normalement, quand je le montre, il est sur une table et les gens y jouent quoi normalement, entre guillemets, pour un jeu de cartes. Mais là, dans le contexte de cette exposition avec Nikita, on en a pas mal parlé. On s'est dit que ça pouvait être intéressant aussi de disposer en long sur un mur toutes les cartes une par une et qu'on puisse avoir le temps de les regarder parce que chacune de ces cartes comporte une petite particularité, on va dire.
D'accord, donc on invite l'auditeur à venir jouer justement ici, donc ce sera au Palais des Arts, à l'ISDAT. Marie Glaise et Louis Clès, on vous avait déjà croisé sur une exposition commune, c'était en Chine pour le Bazar Compatible Programme. Alors là, il me semble que vous aviez présenté des œuvres mais de façon complètement indépendante.
Au même endroit mais pas au même moment.
Voilà, il n'y avait pas. Voilà. Et donc ce travail à deux, est-ce que c'est quelque chose qui est en train de naître ou c'est quelque chose déjà de bien développé dans votre travail collectif en fait?
Ça se développe encore, mais on trouve qu'on fait de mieux en mieux.
Et donc est-ce qu'il y aura prochainement d'autres expositions, on pourra découvrir votre travail?
Alors moi je voudrais pas trop spoiler, mais on est en train de créer une machine avec un ingénieur et une commissaire d'exposition qui permettra aussi d'échanger des choses, mais là des choses bien spécifiques, mais on veut pas en dire trop pour laisser du suspense.
Et ça se passe à Paris?
On travaille à Paris, mais cette machine, si elle est bien là et réussie, elle pourra voyager.
Alors en parlant de machine, on va parler maintenant de machine pour faire de la musique et on va retrouver donc Antoine Josset, donc qui est programmé donc autour de ce jeu vidéo qui sera présenté, donc ces histoires interactives d'amour animé. Mais on vous retrouvera aussi aux machines dans la deuxième cour de l'ISDAT au fond pour un concert. Et justement tout à l'heure, le commissaire de l'exposition Nikita Suo insistait pour qu'on vous présente à ce titre comme un peu la star de cette soirée. Alors votre travail donc autour des jeux vidéo, autour de des arts numériques concerne aussi la musique. Vous travaillez aussi autour de la musique électronique. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter un petit peu cette deuxième partie de votre travail qui sera montrée ce soir?
Du coup, je bosse la musique tout le temps en fait. Déjà pour faire des concerts ou faire de la musique en live. Enfin, c'est plutôt de la dance quoi. Enfin, c'est un peu eurodance et faite avec des boîtes à rythme et ma voix. Mais de toute manière, en fait, même pour mes travaux qui sont visuels, je bosse aussi la musique. Enfin, je fais la musique de mes jeux vidéo et des films que je fais. Et tout. Enfin, je trouve que l'ambiance sonore, elle est, quoi qu'il arrive, c'est 50-50 avec l'image. Même 70%, je pense, l'ambiance sonore. Du coup, quoi qu'il arrive, je bosse le son. Enfin, j'adore ça, quoi.
Mais alors, ce sera plutôt dance floor ou plutôt vraiment création sonore, innovation?
Là, ce soir, musicale. ça va être dance floor. J'espère.
Que de vos compositions?
C'est ça, ouais.
Compositions en direct?
C'est ça, ouais. D'accord. Avec boîte à rythme et synthé.
D'accord. Donc voilà, ce sera la deuxième partie pour découvrir donc Antoine Josset. Donc merci beaucoup à tous les trois d'avoir été présents sur le plateau
pour
parler donc de votre travail. Je rappelle aux auditeurs que le travail de ces trois artistes sera visible encore une semaine ici au Palais des Arts à l'ISDAT, quai de la Dorade.
Tout à fait. On écoute un son de Bay of Fires. Le son s'appelle Point of No Return. Le point de non-retour, merci François.
Ça va aller ?
Tout à fait.
Ouais, super. D'accord, d'accord, Hugo.
Non.
Ah, si. Oh,
ah non.
Oh, Hugo.
Oh, bah ouais, elle combat un peu.
C'était un son de Bay of Fires, Point of No Return, qui joue ce soir à l'ISDAT pour clôturer la semaine de l'étudiant.
Sol, la, fa, sol, si, la, sol. Tiens, c'est un son mineur.
On parle de toutes les cultures, n'ont rien à voir quoi que. Sur Campus FM 94 FM. Et pendant que nous écoutions un son de Bay of Fire, Max Tenron, invité par Wild Records, nous a rejoint dans la cour de l'ISDAT pour la clôture de la semaine de l'étudiant à Toulouse avec Théo.
Bonsoir Max.
Bonsoir Théo.
Je suis là physiquement. Ma voix c'est bon, je m'entends.
Ça marche.
Bah, du coup, ouais, comme tu viens de le dire, on est avec. Max Tenrom, bonsoir Max. Alors j'ai mené ma petite enquête sur vous et j'ai découvert que vous étiez un vrai passionné de musique, mais ça on s'en doutait, mais surtout que vous avez baigné dans cet univers depuis tout petit.
C'est ça.
Et est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet, surtout comment en fait a commencé votre histoire avec la musique?
Ben moi j'ai commencé en fait avec le piano. Voilà, où j'ai pris pas mal de cours de piano, donc de 7 ans jusqu'à l'adolescence à peu près. Donc j'ai beaucoup travaillé tout ce qui est
classique,
l'improvisation.
Classique.
Non, justement, le côté plus jazz, improvisation et rythmique.
Direct à 7 ans.
Ouais. Direct à 7 ans, j'ai plutôt que le solfège, je suis parti un peu vers cet univers-là. Et puis ensuite, je suis passé aux percussions en plus du piano, parce que bon, le rythme me plaisait, donc j'ai commencé à faire un peu des percus.
Quel type de percus? De la batterie également ou...
Non, plutôt percussions, djembé, derbouka, bongo, toutes les percussions comme ça, n'importe quel style de percussion en fait, tant qu'il faut taper dessus, ça me va. Et puis et après j'ai découvert les synthétiseurs. Donc et c'est comme ça en fait que je me suis petit à petit dirigé vers la musique électronique, mais quand même en conservant mon univers classique en termes d'instruments traditionnels quoi. Donc je mélange le côté électro et le côté acoustique, puisque j'ai toujours soit un clavier, soit des percussions acoustiques avec moi sur scène.
Et vous avez des influences aussi peut-être familiales. Est-ce que vous il y a des musiciens dans votre famille?
Mon père il fait de la guitare, il chante, donc c'est pas son métier mais il en fait depuis toujours, et donc c'est vrai que tout petit j'ai été baigné là-dedans, il écoutait de tout
par
à répétition.
Exemple
ça allait de musique classique en passant par les classiques Supertramp, Pink Floyd, Red Hot. Et puis même des choses un peu plus musique du monde, des choses un peu hispaniques ou Amérique du Sud. Ou... Voilà, petit à petit, je me suis vraiment fait... Quand on me demande mes influences, j'ai vraiment du mal à dire quoi. Donc je dis presque tout, en fait.
Bah, ça tombe bien parce que j'allais vous le demander justement s'il y avait plutôt, en tout cas, un style qui vous a vraiment influencé et que vous avez encore aujourd'hui, qui se ressent encore dans votre musique.
Ben, pas vraiment.
Tout se mélange.
Ouais, tout se mélange. Mais d'ailleurs, tout à l'heure, vous avez passé un morceau à moi, Lotus, oui. Qui est pas encore sorti.
En exclusivité. En exclusivité.
Voilà,
merci infiniment.
Voilà, tout ce que je vous ai envoyé, c'est de l'exclusivité.
Merci beaucoup.
Et celui-là qui est très chill, qui est très calme. Et par contre, ça m'arrive aussi d'en faire des morceaux beaucoup plus dynamiques, soit très techno, ou même avec une connotation un peu hip-hop. Ça peut m'arriver aussi de faire des beats un peu
hip-hop. Dans Lotus, par exemple, quels instruments traditionnels vous utilisez ?
Dans Lotus, j'ai fait des petits enregistrements de percussions, donc de percussions acoustiques, où je m'enregistre moi-même. Bon, après, c'est retravaillé beaucoup derrière, pour que ça sonne un peu aussi, que ça se fonde bien dans une musique électronique. Et puis, et après, du clavier, mais du synthétiseur.
Qu'est-ce qu'on entend, là, derrière ?
Alors, celui-là...
Non, ah non, c'est le concert.
Non, c'est pas,
ouais,
c'est pas
mon geste sonore derrière. Tu entends des voix, Anna.
Ce n'est pas moi. Donc ouais, pour celui-là, je me suis enregistré les mélodies au clavier et puis quelques rythmiques, voilà.
Donc quand vous dites mélodie, c'est écrit.
Voilà, bien sûr. Ouais. Mais ce n'est pas forcément un piano classique. C'est aussi des synthétiseurs, voilà.
Quand vous avez découvert justement les synthétiseurs, est-ce que quand vous êtes rentré dans ce monde-là de l'électro, vous êtes directement tourné vers l'électro, ou alors vous êtes aussi passé par d'autres types de production sonore comme le hip-hop peut-être?
Ouais, mais
ou...
j'ai commencé en fait comme ça. J'avais des petits groupes de, j'étais en contact avec des petits groupes de rap à Toulouse.
Vous produisiez des instrumentales.
Voilà, donc je faisais des instrus. C'était plutôt des instrus un peu à la IAM ou enfin le rap qui est moins le rap d'aujourd'hui,
à l'ancienne,
le rap de ma génération. Ouais. Donc c'était plutôt des instrus mélancoliques. Donc je prenais mon piano, je composais quelques accords en piano et puis je rajoutais derrière des rythmiques rap. Et j'ai commencé comme ça à vendre quelques maquettes, à aller en studio avec des groupes pour enregistrer.
Okay.
Et puis petit à petit, après j'ai découvert le monde de l'électro et finalement c'est ce qui m'a le plus passionné quoi.
Et à cette époque où vous faisiez des prods pour les rappeurs, est-ce que vous sampliez aussi des vinyles ou des morceaux?
Non, alors je suis pas du tout de ce monde, le vinyle c'est pas du tout mon univers, ouais. C'est quelque chose que je pourrais peut-être m'y mettre un jour, mais c'est pas trop. Ouais, je suis jamais trop.
C'est pas une obligation, hein.
Non plus. Non. Mais déjà le mix en lui-même, le DJ set, ça m'est arrivé vraiment plus tard. J'ai commencé vraiment par la compo, à signer sur des labels, à signer quelques morceaux, et la scène est venue bien après. Et j'ai commencé à faire de la scène en faisant vraiment du live avec mes morceaux, mes propres morceaux. Et là, finalement, j'aime bien aussi faire du DJ set et jouer aussi les morceaux des autres, mais en rajoutant quand même ma patte dessus, soit avec des claviers, soit avec les percus. Donc là, vous verrez ce soir, je vais faire un DJ set, donc je vais jouer quelques morceaux à moi, mais pas que. Mais je mets même les morceaux qui sont pas à moi, je vais rajouter ma petite touche rythmique par-dessus.
Donc sur scène, à chaque fois que vous faites un live, vous avez forcément...
J'ai toujours mes percussions.
Toujours vos percussions,
ouais,
sur vous.
Ouais. C'est même quand je fais un DJ set, même quand c'est de la grosse techno ou quoi, je rajoute des percus par-dessus.
De la grosse techno. Toujours obligé de dire grosse à côté de techno.
Ouais, mais oui, parce que de nos jours, il y a tellement de styles de musique électronique, et même dans la techno, il y a plein de sous-genres différents. Donc, voilà, moi, on va dire la petite techno et la grosse techno.
Merci beaucoup, Max Tenrom. C'est votre nom, Max Tenrom?
Max Tenrom, c'est mon nom d'artiste et ce n'est pas mon nom. Voilà, mais il y a un petit.
On aime beaucoup la radio, évidemment, à Campus. Et vous avez une émission de radio sur FMR.
Oui,
vous aviez...
ça fait partie d'une de mes casquettes. Ouais, je suis aussi animateur, enfin co-animateur sur Radio FMR.
Et c'est plutôt électro ou...
C'est une émission sur les cultures électroniques, ouais. Good Evening Toulouse, donc voilà, on traite mais tous les styles de musique électronique.
Alors on va écouter un de vos sons, il s'appelle Rituals et il est donc pas encore sorti, en exclusivité pour Campus FM. Je vous en prie, Rituals, merci.
Merci.
Alors, ce n'était pas du tout un son de Max Tenrom. Désolé, Max, ce n'était pas Rituals. C'était un son de Bol. Ah ouais, c'était un son de Bol qui vient de nous rejoindre et le son s'appelait Holocoon. On remettra tout à l'heure Rituals.
Mais rien à voir, quoique.
Et nous sommes toujours dans la cour de l'ISDAT pour clôturer cette semaine de l'étudiant. Bol nous a rejoint en plateau et Nico, c'est à toi.
Oui, bonjour. Oui, merci Anna et merci à toi Bol de nous rejoindre. Bol, B-O-H-L-L.
Exact.
Qui sera le premier DJ de la soirée et vous allez nous offrir un set 100% house pour ce soir?
Ouais, house, micro, house, mais c'est une house qui tend un peu vers la techno, ça va être house, minimal house, micro et tout. C'est assez hybride.
Ah super, mais avant cela nous allons revenir un peu sur votre parcours. Alors vous avez 22 ans et êtes originaire près de Bagnères-de-Bigorre.
Exactement, enfin, à la base je viens de Madrid, puis à l'âge de 10 ans j'ai déménagé à Bagnères-de-Bigorre, ouais c'est ça.
Bagnères-de-Bigorre, puis ensuite Toulouse où vous suivez actuellement des études en production audio à l'Institut des Médias Avancés.
Mais vous êtes super bien renseigné, dites-moi.
Ah là là là, Bol, vous vous intéressez depuis vos 17 ans à la musique. Et en fait, qu'est-ce qui a déclenché cette envie d'explorer la musique électronique?
Ah, je sais pas, moi j'ai toujours aimé la musique, je fais de la batterie depuis que j'ai 10 ans et tout, puis je sais pas, mes goûts se sont orientés vers des musiques un peu plus électroniques, extrêmes, même si j'écoute toujours de la musique acoustique, je sais pas. Et puis à l'âge de 17 ans, j'ai découvert que avec des logiciels pas si compliqués, on pouvait commencer à faire du son, puis je me suis rendu compte qu'en fait c'était compliqué, mais je suis tombé amoureux.
Ah, et aujourd'hui, avec cette influence de la musique acoustique, un peu par votre passage par des instruments, est-ce que vous comptez à les inclure dans votre musique ou c'est uniquement des sons?
Non, j'ai pas encore trop les moyens d'incorporer de la batterie ou des trucs comme ça. Tout ce que je crée, c'est du digital. Tous les sons que je crée, c'est de la synthèse ou du sample.
Alors toujours dans ce cursus créatif, vous avez créé votre premier crew de DJ, le PPRD crew. Pourquoi PPRD ?
La piperade.
Piperade crew. Puis enfin à rentrer dans un collectif, le collectif Traquenard à Montpellier, spécialisé dans la drum and bass. Et donc voilà, drum and bass, techno, house. Qu'est-ce qui fait que aujourd'hui vous êtes un peu un explorateur de ces musiques électroniques ?
Je sais pas si c'est un avantage ou un défaut, mais ouais, j'arrive toujours pas à me décider. C'est pas volontaire de faire plein de trucs comme ça. C'est que je suis autant amoureux de la house que de la drum, comme de la techno. Et dès que je commence à me cantonner un peu que dans un seul style, ben les autres ils manquent. Donc c'est pas par choix quoi. Ça.
Donc obligé, voilà, comme ça d'aller repousser les limites dans chacune de ces.
Ouais, voilà.
De ces styles. Quelque sorte. Super. Et est-ce que pour toi aujourd'hui, enfin pour vous qui vous représentez de plus en plus régulièrement à des concerts, etc., est-ce que la musique ça reste toujours une passion ou ça devient sérieux ?
C'est une passion, ça le sera toujours.
Ouais.
Après,
c'est un métier.
Voilà. Alors c'est pas un métier encore, mais j'aimerais vraiment beaucoup que ça le devienne. Je fais des études d'audio production. Si je me suis lancé dans ça, c'est que quelque part je crois qu'un jour ça paiera quoi. Et voilà.
Et ça, on vous le souhaite.
C'était
sûr.
Ça la question, Nicolas.
Oui,
est-ce que ça bascule à un moment donné.
Exactement.
Quand ça se professionnalise vers moins de passion, en tout cas moins de plaisir.
Ah non, ça jamais.
Toujours rester dans le plaisir, mais ouais. En espérant qu'un jour.
Et ça grandit, hein, j'ai l'impression à chaque fois.
D'accord. Et parmi les expériences auxquelles. Que vous avez fait, vous avez eu la chance de faire la première partie d'une grande productrice et DJ brésilienne,
ouais,
Elisa do Brasil.
Elisa do Brasil, qui joue demain soir d'ailleurs au Rex, pour Dusk, c'est copain de Drum and Bass. Et ouais, j'ai fait sa première partie au Méloman à Montpellier avec notre asso là, Traquenard. Bon, j'ai vraiment joué en premier, il n'y avait personne et tout, mais c'était cool de la rencontrer, c'est quelqu'un de super cool et très talentueuse.
Et est-ce que vous avez parmi comme ça, je sais pas, des DJ idoles
J'en ai beaucoup trop. Je pourrais pas tous les citer, mais ouais, il y en a
un ou
beaucoup.
Une en particulier.
Écoutez, en drum and bass, je sais pas, je dirais Noisia parce que sans eux il y aurait rien. Et je sais pas, en house ou en Kevin Over en house. On n'en parle pas assez de ce mec. Écoutez tous ceux qui écoutent ça, écoutez Kevin Over. Il est bon pour les oreilles.
Et donc ce soir, c'est, si je ne me trompe pas, c'est la première fois que vous jouez avec le collectif Wild.
C'est ça.
Et est-ce que vous comptez, comme ça, vous avez implémenté un peu plus dans la scène toulousaine ? Comment est-ce que vous êtes amené à jouer sur la scène toulousaine ?
C'est-à-dire
dans des collectifs où on pourra vous suivre ?
Ouais, ça j'espère. Déjà, on est en train de lancer une asso avec 4 amis, donc Me, Aware et Error Flynn.
Aware avec qui vous avez fait un titre qui est passé juste avant.
Ah,
et oui, tout à fait. Fuji Speedway GT 2000 est passé juste avant avec Aware.
Vous avez même pas fait de faute. Et du coup, on lance une asso qui s'appelle Cluster.
Ok.
Et ouais, il y a déjà des dates de prévues en janvier. Voilà, on n'en dit pas plus, on ne dit pas où.
D'accord. Avec quel genre style musical on reste
house.
Sur la techno.
Cluster, c'est house.
Très bien.
House, techno, break.
On donne la ligne, l'axe musical de
à la house.
Super.
Et plus affinité.
Et alors, est-ce que si vous pouviez définir là un peu ce qui attend le public ce soir en quelques qualificatifs, quel serait-il ?
Oh, ce soir, ça sera de la house groovy, minimaliste, mais envoûtante, quoi. Voilà.
House groovy, envoûtante. Super. Eh ben, c'est sur ces mots. Merci Bol encore d'être venu.
Merci Bol.
Avec plaisir. Merci à vous.
Premier DJ qui passera ce soir à 20h.
Alors, on va écouter un son de Max Ten Rom cette fois. Il s'appelle Rituals, puisqu'on a déjà écouté le son de Bol. Super. Pas de soucis. We'll be right back.
On écoutait Rituals par Max Tenron en exclusivité pour Campus FM. Merci beaucoup qui joue ce soir pour la clôture de la semaine de l'étudiant dans la cour de l'ISDAT.
Oui, et puis au-delà des ennuis, on ne peut pas vivre impunément sans être marqué par le passage du temps.
Vous êtes bien sûr Campus FM, vous écoutez Rien à voir quoique. Et nous sommes toujours en public et en direct dans la cour de l'ISDAT pour clôturer, et là c'est vraiment la clôture de la semaine de l'étudiant, en festoyant. Zelda Lane du service de la mission culture et initiative de l'Université fédérale Toulouse-Midi-Pyrénées s'est installée avec nous. Bonsoir Zelda. La 14e édition de la semaine de l'étudiant ambitionne de favoriser l'intégration des étudiants et des étudiantes dans leur territoire grâce à un événement de rentrée proposant des parcours d'initiation, de découverte sur les thématiques fédératrices de la vie étudiante, les échanges internationaux, la culture scientifique, la vie associative, le sport, les arts, la culture. Et parmi les nouveautés de l'année, le programme s'est décliné sous forme de parcours thématiques, un jour, un thème. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, organisateurs, pour construire la programmation, ce jour, ce thème ?
Alors, on s'est dit que c'était beaucoup plus lisible. Enfin, en tout cas, on a essayé de le travailler comme ça, d'avoir toujours dans l'idée d'un parcours, donc de pouvoir découvrir de nouvelles choses, d'avoir des choix, mais une journée axée avec voilà, culture scientifique, sport... Voilà, patrimoine. Ça a changé beaucoup de choses aussi par rapport à nos partenaires, puisque bah, c'était beaucoup plus de contraintes. Donc forcément, bah, y a beaucoup de partenariats qui n'ont pas pu se renouveler cette année. Et comme on a mis tout ça en place bah, finalement un petit peu plus tard, que ça a bouleversé un petit peu notre équilibre, notre petite programmation habituelle.
En quoi un jour un thème a perturbé les partenaires ?
Ben les partenaires, certains partenaires nous proposaient leur programmation qu'ils souhaitaient mettre en avant pour le public étudiant. Donc ben à un moment, on s'est retrouvé, bon ben ce jour-là, c'est musique. Ben non, ce mercredi, par exemple, je n'ai pas de concert, donc je ne peux pas vous proposer de concert.
Et est-ce que pour les étudiants, ils ont vu cette thématique ? Est-ce que c'était plus facile ? Bon, j'ai trouvé que c'était assez clair dans le programme, en tout cas.
Alors
de
j'ai
thématisé.
J'ai pas encore vraiment de retour étudiant. On verra à la fin de la semaine. Là, j'étais bien dans le bouillon, donc j'avoue que je sais pas encore. Peut-être qu'on pourra demander à nos bénévoles adorés.
Est-ce que l'année dernière, est-ce qu'il y avait pas un peu moins de place pour la science, par exemple?
Sur la culture scientifique, il y avait une grande soirée culture scientifique en partenariat avec la Fête de la Science et Science Animation. Cette année, il y avait une journée culture scientifique et une journée entière avec pas mal de choses dans les bibliothèques, d'escape game, tout ça, et ça a vraiment bien fonctionné.
Est-ce que donc vous étiez un peu dans le jus, Zelda, mais quand même, est-ce que vous avez croisé tous les étudiants de tous les cursus pendant la semaine de l'étudiant ou d'année en année? Est-ce que c'est toujours les mêmes étudiants?
Ça se mélange. C'est ça qui est chouette, c'est que ça se mélange vraiment. On est dans des lieux aussi. On est dans les établissements, mais pas que. On est samedi, on était cours du Crous, donc et de l'ENSAF, donc en plein cœur de Toulouse. Ben là, on voyait bien que ça se mélangeait, et on le voit aussi avec notre équipe de bénévoles qui vient de tous les établissements. Donc c'est ça qui est important aussi pour nous.
Est-ce que cette année, vous avez vu de nouvelles associations étudiantes se créer avec des préoccupations, des envies nouvelles?
Pendant le festival, il n'y en a pas qui se sont manifestés. En dehors, oui, on a vu tout ce qui est responsabilité sociétale, tout ce qui est autour du développement durable, ça quand même ça s'amplifie. Et donc cette année, on a vu une association étudiante inter-U se créer, les Affûtés, qui propose par exemple de mettre en place des protections hygiéniques dans les universités libres et avec des matériaux durables pour. Parce qu'en plus, c'est très inégalitaire sur les plans financiers et aussi au niveau de tout ce que ça fait sur la planète. Donc, elles ont essayé de développer ça et ça a très bien marché.
Alors, vous en parliez, le 12 octobre, il y avait une grosse soirée organisée avec le Crous, soirée initiative étudiante dans la cour du Crous rue du Thor, habitée et transformée pour l'occasion. Deux bénévoles, Lisa et Lauriane, après une courte mais efficace formation technique auprès de François Berchenko à Campus FM, étaient à cette soirée pour enregistrer des sons. Un montage de Sam, on écoute.
Bienvenue à la soirée des initiatives étudiantes organisée dans le cadre du festival La Semaine de l'étudiant.
The Student Week.
学生之周.
Studentenwoche.
Semana del Estudiante.
学生周.
Alors, je suis Ludovic de l'association Un œil sur ma ville. C'est une association qui s'intéresse à l'histoire, au patrimoine, et en particulier au patrimoine qui est disparu ou un peu mystérieux, et qui essaie d'impliquer les gens qui habitent ce patrimoine dans la valorisation de leur quartier ou de leur village. Alors, la semaine de l'étudiant, je la connais depuis que je suis étudiant, parce que ça fait presque 10 ans que je suis à Toulouse et que j'ai fait toutes mes études là-bas.
Alors, je m'appelle Marion et je suis bénévole de la semaine de l'étudiant. En fait, j'ai une amie de l'université qui m'a proposé de venir avec elle à la semaine de l'étudiant parce qu'elle était là depuis plusieurs années. Voilà. Et bien, ce que j'aime, c'est qu'il y a toutes sortes de d'animations. En tant que bénévole, on rencontre des gens de différentes nationalités. C'est assez enrichissant. Ce soir, moi, je suis bénévole, donc dès que je peux, je vais aller voir la danse et... les quelques concerts, j'ai vu qu'il y avait des concerts assez chouettes ce soir. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses, autant de domaines différents qui soient abordés. Je venais au Crous parce qu'il y a la bibliothèque des études méridionales dans ce bâtiment, donc des fois je viens réviser là.
Donc moi c'est Tanguy, je fais partie d'AnimaFac, je suis en service civique à AnimaFac. Alors du coup on est ici puisque le principe d'AnimaFac c'est essayer de fédérer les associations étudiantes au niveau local. On est venu ici rencontrer les associations étudiantes qui viennent présenter ce qu'ils font pendant l'année. Et nous de les rencontrer pour après faire en sorte qu'ils puissent se rencontrer entre elles et monter des initiatives ensemble. Moi, mon histoire avec la semaine de l'étudiant, je suis bénévole à la semaine de l'étudiant également. J'ai connu la semaine de l'étudiant l'année dernière en arrivant à Toulouse par un démarchage dans la rue de bénévoles qui distribuaient les programmes. Et puis je m'y suis intéressé et c'était super cool.
Alors je m'appelle Daniel, je suis animateur à la Cité de l'Espace et je parle voilà pour ce soir pour UPS in Space, le club astronomie de l'université Paul Sabatier. Nous sommes une association étudiante et ce que nous faisons, nous faisons de la vulgarisation spatiale auprès des étudiants.
Du coup, je m'appelle Marquise Cynthia, je suis vice-présidente des Enfants Roses de l'INSA. Donc c'est une association étudiante qui, un peu sur le modèle des Enfoirés, organise des concerts en fin d'année. On participe chaque année à la semaine de l'étudiant. Merci à vous.
Et voilà ce qui se passe chez les bénévoles de la semaine de l'étudiant.
Merci Lisa et Sam qui a fait le montage. Donc vous êtes bénévole sur la semaine de l'étudiant et vous avez fait cette création sonore. Qu'est-ce que c'est que ce son qu'on entend au début ou à la fin?
Alors, c'est une idée géniale.
Vas-y si tu veux.
Sam.
Alors comment cette idée nous est venue? C'est une très très bonne question. Hein. On peut se la poser légitimement. En fait, on était tous les trois à faire le montage finalement. Donc, j'étais censé être
avec
responsable
Lauriane.
De ce montage magnifique. Mais finalement, on était tous les trois réunis. On avait déjà rendu à Chisco ici présent le matériel.
Ouais.
Et on voulait enregistrer des voix. Et l'idée qui nous est venue à l'esprit, c'est de faire parler Google. Voilà.
C'est la traduction. C'est la voix de Google. Je l'ai pas reconnue.
C'est Google Traduction qui nous a servi parce qu'on trouvait ça très drôle, la voix un peu mécanique, un peu
robotique.
Et voilà.
Un mot sur cette première expérience. Donc, vous êtes allé chercher des sons pendant cette soirée. Vous avez choisi les interviewer.
Ouais, on a choisi. On voulait vous montrer un gros panel en fait. Donc, on a choisi des associations, mais aussi des bénévoles pour parler, pour qu'eux, ils représentent la soirée le mieux possible.
Moi, j'étais pas là. Enfin, j'étais, on était tous occupés pendant la soirée. Malheureusement, ces bandes son elles auraient pu être plus nombreuses, plus
diversifiées.
Mieux,
voilà, Mais je trouve qu'on a quand même bien représenté les assos et on a vu les bénévoles aussi. Donc, on a vraiment montré, je trouve, un peu l'âme de la semaine de l'étudiant, un peu ce qui l'a fait vivre. Et c'est les associations étudiantes, quoi.
Yes. Et votre rôle dans la semaine de l'étudiant, en tant que bénévole?
Alors, nos rôles, ils sont diversifiés. Et je pense que c'est important parce que les bénévoles, ils font plein de missions différentes. Il y en a qui font juste de l'accueil, qui vont juste être... qui vont indiquer le chemin aux gens. Il y en a qui vont être un peu sur tout ce qui est mise en place, déco. Donc ouais, il y a des missions qui sont assez diversifiées, assez cool, et je pense que tu es d'accord avec moi, ça.
Ah oui, il y a quelque chose de très important quand tu es bénévole, évidemment, c'est d'être au devant de la scène et de mettre l'ambiance aussi, parce que c'est quelque chose qui manque parfois sur certaines soirées. Quand le public n'est pas très chaud, on est aussi là pour motiver les foules et danser devant les groupes, quoi.
Ouais, on l'a déjà fait l'année dernière.
Lauriane, oui, vous avez participé à ce montage, à la captation des sons.
Oui.
Un retour là-dessus.
Oui, bonsoir. Oui, j'arrive un peu en cours de route. Oui, j'ai également participé aux prises de sons et aux interviews. Et moi, j'aimerais, je ne sais pas si ça a déjà été abordé, mais expliquer que, au-delà des interviews qu'on a fait, c'est montrer le côté sérieux de la semaine d'étudiants, que on est bénévoles, mais on a tous beaucoup de qualités, de compétences,
de responsabilités,
et que on les a mis en pratique, parce que finalement on a eu quasiment une petite formation, on a mis ça en route dès le lendemain comme on pouvait, et je pense finalement que on s'en est quand même pas trop mal sorti, et ouais, il faut se valoriser.
Est-ce que ça vous a donné envie de continuer dans ce...
Grave, de ouf.
Pourquoi pas, après, avec beaucoup plus d'expérience peut-être.
Moi, si c'était à refaire, je m'investirais plus. Et voilà, comme on s'est dit, si on voulait faire quelque chose de plus sérieux, de plus professionnel, on ferait une première réunion avec ce qu'on veut faire et le temps qu'on investit, etc. On ferait un vrai projet, quoi, alors que là c'était quelque chose à l'arrache,
même sur la technique de maîtriser peut-être.
Oui, voilà.
Ça faisait peur, je sais pas, moi j'avais peur un peu de la machine, mais...
oui.
Ça, je sais pas comment ça marche, on m'a expliqué, donc j'étais en mode
Est-ce que vous avez été étudiant pendant la semaine de l'étudiant avant, c'est-à-dire sans être bénévole?
Non.
Et moi je l'aurais jamais connu sans être bénévole, en fait.
Ouais.
Je pense pas.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a donné envie d'être bénévole sur cet événement-là?
Moi c'était, je sais même, en fait ça fait 3-4 ans que je suis bénévole maintenant. Et j'ai découvert en fait la semaine de l'étudiant en faisant du bénévolat, parce que je suis pas d'origine de Toulouse, donc c'était un peu, j'étais pas au courant, quoi. Et dès que j'ai fait ça en bénévolat, j'ai dit c'est incroyable, j'adore, les gens sont super sympas, parce que franchement, Zelda qui vient de parler, Marie aussi, Yann, c'est
Marie
l'équipe
Harmonier,
qui,
Yann Froid.
Qui participent, ce sont des gens formidables, qui sont ultra sympathiques et qui m'ont vraiment donné envie de recommencer. Et cette ambiance, en fait, les gens qu'on rencontre, parce que Sam, Lauriane, on s'est rencontrés ici, on s'est rencontrés là, ouais. Et on est toujours potes, on se fréquente en dehors, et c'est une manière de rencontrer des gens qui sont fantastiques, de rencontrer des assos, de faire des projets. Je pense à Sam qui a rencontré l'AJT, une association étudiante, voilà, donc c'est vraiment un tremplin incroyable, et c'est pour ça que j'ai recommencé 2 années de suite.
Oui, je dirais que, enfin, également, pareil, je suis arrivée sur Toulouse, j'ai trouvé ce bénévolat, je me suis dit pourquoi pas, c'est le moment de rencontrer des institutions et des gens, et finalement, ouais, on devient vite accro, hein, on revient chaque année pour les personnes, pour l'équipe, qui est quand même vraiment très pro et très 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 sympa, et ça permet pour autant de se renouveler chaque année, parce que chaque année est unique. Voilà.
Ouais.
Ça vous alors, ajoute un truc.
Alors moi j'ai reçu un. Alors moi je suis en école d'ingénieur, donc un milieu assez fermé, et j'ai reçu un mail un jour qui disait que la semaine de l'étudiant cherchait des bénévoles. Je me suis dit bah tiens vas-y go, on va aller voir.
Vous êtes combien de bénévoles?
On était une vingtaine.
Oh, 25 000, petite trentaine. Ouais, ça dépend parce qu'il y a beaucoup d'événements.
Ouais.
Et donc du coup on se croise généralement sur les gros événements comme la soirée d'ouverture, la soirée de clôture, et après le reste c'est des événements qui sont plus petits, qui nous correspondent, nous, qu'on fait avec nos propres sensibilités. Par exemple moi j'étais bénévole au cosmographe pardon. Donc du coup en fait là on se voit moins, on se croise moins. C'est surtout sur les gros événements comme ça.
Un ou deux, ouais.
Ouais,
donc ça, vous avez reçu un mail?
Donc je suis arrivé justement à cette réunion de bénévoles où il y avait peut-être 15 bénévoles, y compris Zelda et Marie ici présentes. Et en fait c'était marrant, c'était sympa, l'ambiance était cool, et je suis resté là. Et en fait c'est vrai que grâce à ce mail et grâce à cette réunion, j'ai rencontré, en fait c'est la semaine de l'étudiant qui m'a immiscé dans la vie associative toulousaine. Et grâce à cette semaine de l'étudiant, avec ces soirées dans lesquelles j'ai rencontré plein de gens, eh bien, j'ai rencontré d'autres associations, je me suis fait des très bons amis. J'ai rencontré cette association de l'AJT, du coup, qui a organisé une soirée.
Il y a une émission de radio maintenant sur Campus FM,
d'ailleurs. Yes.
Ouais. Ouais.
Voilà, ouais. C'est un beau tremplin.
Une belle histoire.
Lisa, vous faites quoi comme étude?
Moi, je suis en fac d'histoire, je suis en master d'histoire à l'université Jean Jaurès.
Et Lauriane?
Alors moi je viens du milieu du social, et actuellement là je suis en troisième année de licence sciences de l'éducation à distance, et finalement la semaine d'étudiants m'a amenée dans un milieu type événementiel communication que je ne connaissais pas du tout, donc c'est toujours un plus, finalement. Ouais.
Et vous avez là plutôt en pleine forme pour la fin du festival.
Ça va, ce n'est qu'une apparence.
Oui, voilà.
Moi, j'ai dormi, ça va, j'ai séché un petit cours ce matin, ça fait toujours plaisir.
Merci beaucoup, Lisa, Lauriane et Sam, pour ce montage
de qualité.
De qualité.
Merci à vous.
Merci.
Pour nous mettre à l'aise.
Ouais, grave.
Maintenant, l'heure de se quitter et le temps des merci. Toute l'équipe, je pense, est partie au bar et m'a laissé seule avec François et Tulip à la réalisation technique. Un grand merci à Léo Le Serre de Wild Records et Nikita Sue du collectif Fusil. Merci Zelda Lan de l'Université Toulouse Midi-Pyrénées et les bénévoles de la semaine de l'étudiant. Et à tous les artistes plasticiens et les artistes musicaux qui sont venus sur ce plateau ce soir. Merci à toute l'équipe de LISDAT pour son accueil. Et bien sûr, merci à l'équipe de Campus FM, Hugo, Nico, Théo, François et Tulip à la réalisation technique, Thomas à la mise en onde et Zach pour les réseaux sociaux. Un dernier merci à Malcolm Mike de l'émission Gourmand de New Soul Food qui nous a généreusement offert son créneau du jeudi soir sur les ondes de Campus FM pour cette émission spéciale de Rien à voir quoique. Très belle soirée sur les ondes de Campus FM.